Et voilà, pour la dignité revient, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite avec Régis Coulanges d'Amnesty International. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, alors cette émission, bien sûr, va être consacrée en grande partie à l'Ukraine, mais pas que. Voilà, donc on va commencer justement par cette guerre en Ukraine, qui est, pour les droits humains, une catastrophe. Cette invasion viole la Charte des Nations Unies. Elle constitue un crime d'agression au regard du droit international. Parce que même la guerre a ses lois. Nous enquêtons à Amnesty International depuis le début de l'invasion sur les violations des droits humains en Ukraine. Nous avons documenté plusieurs attaques aveugles et l'utilisation par les forces armées russes d'armes non discriminantes comme des bombes à sous-munitions dans des zones urbaines. Nous avons également documenté des attaques contre les civils et des infrastructures civiles comme à Irpin dans la banlieue de Kiev. Il s'agit de violations graves du droit international humanitaire et de possibles crimes de guerre. La directrice d'Amnesty International en Ukraine, Oskana Pokalchuk, a écrit le 4 mars 2022 « À l'heure où je vous parle, les forces russes encerclent les villes, elles bombardent les écoles, elles font des ravages sur les civils. J'ai été le témoin direct d'horreurs inimaginables que je ne souhaite à personne. Et pourtant, je crains que le pire soit à venir. Cette violence aveugle a déjà coûté la vie à de nombreux civils et des dizaines de villes et de villages ukrainiens sont assiégés. Pris entre deux feux ou attaqués par les forces armées russes, les civils se protègent comme ils peuvent, parfois enfermés dans des sous-sols, presque sans eau et sans nourriture. Chaque jour, la catastrophe humanitaire s'aggrave. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 3 millions de personnes seraient déjà réfugiées dans les pays voisins. La Pologne accueille la majorité d'entre eux actuellement, mais même la fuite est parfois trop risquée. Les cessez-le-feu pour permettre aux civils d'évacuer ne sont que peu ou pas respectés, et les couloirs humanitaires restent des voies de secours dangereuses. Nous avons récolté des témoignages de civils tentant de fuir et ayant été visés par des attaques russes. En Russie même, Vladimir Poutine mène une autre guerre contre la liberté d'expression. Depuis le début de l'invasion russe, la censure fait loi. L'usage du mot « guerre » a purement et simplement été interdit et la force règne en maître contre les manifestants anti-guerre. Le Kremlin veut faire taire toutes les voix dissidentes, contraires au discours officiel. Près de 14 000 personnes ont déjà été arrêtées lors de manifestations en Russie depuis le début de la guerre. Des dizaines de journalistes ont dû abandonner leur travail et n'ont d'autre choix que de quitter le pays. La population russe n'a quasiment plus accès à une information objective et fiable. Les responsables des crimes de droit international commis en Ukraine devront rendre des comptes devant les juridictions compétentes. Notre mission, à nous, Amnesty International, c'est de poursuivre notre travail d'enquête sur ces crimes, continuer à les dénoncer et mener des actions de plaidoyer auprès des Nations Unies et des États membres. Les experts en armement d'Amnesty International analysent des photos, des vidéos et d'autres données pour déterminer quelles armes sont utilisées et si elles entraînent des atteintes aux droits humains. Ils peuvent pour cela étudier la forme du cratère laissé par un missile, regarder des vidéos de frappes aériennes ou examiner des photos de débris d'armes. Les spécialistes analysent aussi des données sur le commerce des armes pour comprendre à qui elles appartiennent. Il est important de noter que l'Evidence Lab travaille avec des chercheurs et chercheuses qui interrogent des témoins des attaques. Je vais vous parler de ce laboratoire d'Amnesty International tout à l'heure. L'un des principaux objectifs de ce laboratoire est de dresser un bilan précis des faits pour lutter contre la mésinformation et les désinformations souvent omniprésentes pendant les conflits et d'autres situations de crise. Les éléments de preuve récoltés sont essentiels. Aujourd'hui, ils permettent d'attester de la mort de civils, de dénoncer les violations du droit international humanitaire en Ukraine et d'alerter sur de possibles crimes de guerre. Ce sont des outils pour informer et tenter de prévenir une nouvelle escalade de la violence. Ce sont aussi des outils qui nous permettent de mener des campagnes de plaidoyer au plus haut niveau de la communauté internationale. Demain, ces éléments de preuve documentant de potentiels crimes de guerre commis en Ukraine pourront aussi aider des victimes à obtenir justice, car les auteurs de crimes internationaux devront un jour rendre des comptes. De manière plus générale, notre travail contribue aussi à raconter ce que subissent les personnes directement touchées par ces crises et à faire entendre leur voix. On va écouter une chanson pour l'Ukraine qui est adaptée d'une chanson de Goldman par Monsieur Sebi.
Regarde l'Ukraine vit son pire cauchemar. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Le monde n'a pas besoin de ça. C'est bien triste d'en arriver. C'est la peur et l'angoisse. Difficile de vivre sous un toit. Et le bruit intense des soldats. Oh, 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 oh. On ne peut pas laisser ça comme ça. Regarde ça, le monde est vraiment pas normal. Des gens avec trop de pouvoir on devrait ne jamais voir ça. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Et ça, ce n'est pas normal. Oh, oh, oh. Et ça, ce n'est pas
voilà. Alors souvent, j'ai documenté à cette antenne le fait que les renseignements d'Amnesty International sont sûrs, sont vérifiés. Et là, par rapport à la guerre à l'Ukraine, je vais vous expliquer un petit peu comment nous procédons pour donner une information sûre. Voilà, on a créé un laboratoire qui s'appelle l'Evidence Lab. C'est un laboratoire de preuves. Et dès le premier jour de l'invasion russe, le 24 février, on a commencé à enquêter sur les attaques militaires en Ukraine. On a pu ainsi documenter et dénoncer très rapidement des frappes sur des hôpitaux et des écoles, l'utilisation d'armes aveugles comme les missiles balistiques et l'utilisation d'armes interdites en zone urbaine comme les bombes à sous-munitions. Si aujourd'hui nous pouvons faire ce travail d'enquête et d'analyse, c'est parce que nous sommes financièrement indépendants de tout État, grâce au soutien de nos membres et de nos donateurs à travers le monde. Notre laboratoire de preuves fait partie du programme Réaction aux crises d'Amnesty International. C'est une équipe pluridisciplinaire, comportant des spécialistes de données visuelles en open source, de la télédétection, des armements, des données, des développeurs, qui recense à distance les atteintes aux droits humains à l'aide d'outils d'investigation numérique de pointe. Notre laboratoire recueille et analyse des images satellites, des enregistrements vidéo et des photos de frappes aériennes et d'autres attaques et leurs conséquences, ou encore des images de débris d'armes en vue de prouver des violations du droit international. Elle utilise la géolocalisation, la reconstruction tridimensionnelle des événements et analyse les armes et la balistique. Lorsque c'est possible, les éléments de preuve sont corroborés par des entretiens par nos équipes de recherche, sur le terrain ou à distance, avec des témoins des attaques. Ce laboratoire contribue à faire en sorte que les informations provenant de zones de conflit soient exactes, soient diffusées rapidement et répondent aux besoins des activités de défense des droits humains dans les situations de crise. Ce travail est particulièrement important lorsqu'il est dangereux pour les chercheurs et les chercheuses d'être sur le terrain et à une époque où les informations fausses et trompeuses peuvent se diffuser rapidement. L'Evidence Lab reçoit des informations issues de diverses sources, y compris des preuves recueillies par les citoyens, c'est-à-dire qui n'ont pas été collectées par un spécialiste reconnu des enquêtes sur les droits humains. Les contenus de ce type, souvent diffusés publiquement sur des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou YouTube, révèlent parfois de manière très détaillée des atteintes aux droits humains qui auraient pu passer inaperçues. Notre laboratoire reçoit aussi directement des preuves de la part des témoins sur le terrain. Depuis le début du conflit, nous avons vérifié et analysé plusieurs attaques des forces russes en Ukraine. Certaines d'entre elles, notamment des frappes sur des hôpitaux et des écoles, des attaques menées sans discrimination qui ont tué ou blessé des civils, ainsi que l'utilisation d'armes à sous-munitions interdites, pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Nous avons établi déjà une liste importante de crimes de guerre potentiels. Par exemple, le bombardement d'une école maternelle dans la municipalité de Stanistias-Louhanska, bombardement un missile sur un hôpital à Vouhedar, une frappe contre un bâtiment résidentiel à Kharkiv, un enfant tué notamment par des tirs d'armes à sous-munitions interdites dans une école maternelle d'Oktyrka. Un missile qui endommage l'école de Mariupol, une arme explosive qui frappe le deuxième étage d'une école maternelle à Tchernihil, une attaque par arme à sous-munitions à Kharkiv, des frappes à Kharkiv ont des blessés parmi les civils, plusieurs personnes blessées à Kharkiv dans un parking touché par des armes à sous-munitions, une attaque à la bombe conventionnelle aurait fait 47 morts à Tchernihil. En fonction de ce qu'ils recherchent, les spécialistes du laboratoire ont recours à différentes méthodes de vérification, comme par exemple la chronolocalisation. Il s'agit de confirmer où et quand une vidéo ou une photo a été prise. Les spécialistes peuvent pour cela recouper le document avec des images satellites, des photos prises sur place et d'autres informations publiques, par exemple en examinant le paysage, les arbres, les bâtiments et les rues, apparaissant sur les images pour vérifier s'ils concordent avec Street View ou d'autres photos prises dans un lieu connu. Ils peuvent aussi analyser les conditions météorologiques et les ombres pour voir si elles correspondent aux circonstances dans lesquelles la photo ou la vidéo aurait été prise. Tout cela pour avoir une vérification et donner une information juste. On utilise aussi la télédétection. Les spécialistes utilisent des images satellites et d'autres capteurs, les radars, par exemple, pour détecter les signes révélateurs d'attaques, comme des bâtiments détruits, des cratères, des débris ou encore des mouvements de troupes ou d'armes. Il est également important d'avoir une vue d'ensemble pour recouper et vérifier les cibles potentielles et comprendre la dynamique de ces attaques. Et bien sûr, on étudie aussi l'identification des armes. Voilà un petit peu comment nous procédons. On va maintenant écouter la chanteuse Pravi qui reprend une chanson de Balavoine, Tous les cris, les SOS.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS. S'écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. J'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y'a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Toujours aussi magnifique cette chanson
oui,
de Daniel Balavoine. Ouais.
On va maintenant parler des réfugiés venant d'Ukraine. Selon l'ONU, déjà plus de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. On n'avait pas vu un tel nombre de personnes fuyant vers d'autres pays européens depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la Pologne en accueille la majorité. Des milliers de bénévoles ont prêté assistance aux personnes fuyant le conflit. Cette volonté d'aider est extraordinaire et remarquable. Mais si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités et ne mènent pas une action concertée, certaines personnes ayant besoin d'une protection et d'une assistance risquent de passer dans les mailles du filet. Les autorités polonaises doivent prendre le relais des bénévoles en ce qui concerne l'accueil des personnes fuyant l'Ukraine. Des milliers de bénévoles ont notamment fourni de la nourriture, des hébergements, des services d'interprétariat, et la possibilité d'effectuer des trajets gratuits à travers l'Europe. Les bénévoles étaient beaucoup plus visibles et actifs que les autorités dans toutes les zones où nous nous sommes rendus. Il n'est cependant pas possible de se reposer de manière durable sur des bénévoles et le gouvernement doit agir rapidement afin de proposer un système d'enregistrement, des hébergements à plus long terme, un soutien psychosocial, des transports, etc. Les personnes fuyant l'Ukraine tiennent plus que tout à obtenir des informations fiables concernant leur hébergement, les transports disponibles et leur statut au regard du droit. Mais sans coordination, Elle risque d'être privée de ses services essentiels. Et ce que nous craignons, c'est qu'elle risque, certaines, d'être harcelée ou abusée par des criminels. Ainsi, malgré les efforts remarquables des bénévoles, des lacunes subsistent dans les domaines critiques, notamment en matière d'information sur le statut de ces personnes au regard du droit. Ce manque d'information cause une forte anxiété, en particulier parmi les personnes qui ne sont pas de nationalité ukrainienne. L'absence d'intervention de la part de l'État expose les personnes fuyant l'Ukraine à un risque de violence et de traite. Les bénévoles éprouvent des difficultés à enregistrer les nouveaux arrivants. Ainsi, sans procédure officielle d'enregistrement et de suivi, les femmes, les hommes et les enfants ayant fui l'Ukraine, en particulier ceux qui ne parlent ni polonais ni anglais, sont exposés à un risque d'abus de la part de personnes ou de bandes criminelles cherchant à exploiter cette situation chaotique. Ils profiteraient de la grande détresse des personnes réfugiées. Nos chercheurs ont vu comment des personnes arrivées en Pologne ont immédiatement demandé l'assistance de quiconque était disposé à les aider. Les nouvelles informations faisant état de violences liées au genre contre les femmes et les filles sont tout particulièrement inquiétantes. Il a été signalé que la police de Wrocław a arrêté un Polonais de 49 ans qui aurait agressé sexuellement une Ukrainienne qu'il avait proposé d'accueillir dans son appartement. Les organisations polonaises de défense des droits humains ont également déclaré qu'elles reçoivent actuellement des signalements sur d'autres cas de violences sexuelles qui restent confidentiels. Elles craignent que les personnes fuyant l'Ukraine, notamment les mineurs non accompagnés, ne deviennent victimes de la traite. La loi martiale appliquée en Ukraine interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Les personnes quittant l'Ukraine sont par conséquent en grande majorité des femmes et des enfants. Les familles se retrouvent donc séparées. Les restrictions ont des effets particulièrement néfastes pour les hommes en situation de handicap et les hommes s'occupant seuls de leurs enfants. Des hommes présentant un handicap et possédant certains papiers ont été autorisés à quitter le pays, mais dans les faits, ils n'y parviennent pas toujours. On a le cas, par exemple, de Sofia qui dit « Mon fils a perdu un bras et Louis dans le conflit précédent. Mon fils est officiellement reconnu comme une personne dont les handicaps résultent de blessures de guerre. Il ne peut pas travailler, pourtant, ils ne l'ont pas laissé passer. » Elle a également dit, avec deux autres femmes, avoir vu de nombreux autres hommes se faire intercepter par les gardes frontières ukrainiens. Elle ajoute « Un homme voyageait avec ses deux enfants, qui avaient peut-être 5 ans et 1 an, et ils ont refusé de le laisser passer. On aurait dit qu'il n'avait pas de femme, peut-être qu'il était veuf. Les gardes frontières ukrainiens ont déclaré qu'ils pourraient prendre les enfants, mais pas le père. » Par ailleurs, nous nous sommes entretenus avec 27 personnes ressortissantes d'autres pays qui ont fui l'Ukraine après l'invasion russe. Parmi elles, de nombreux étudiants étrangers et des personnes qui résident en Ukraine, certaines depuis 20 ans. Des personnes racisées, particulièrement les personnes noires, ont déclaré avoir fait l'objet de discrimination et de violence de la part des forces ukrainiennes lorsqu'elles ont essayé de quitter le pays. Beaucoup ont dénoncé des traitements discriminatoires, à la fois lorsqu'elles ont essayé de monter à bord de trains et de bus et près des points de passage à la frontière. D'autres ont décrit des agressions verbales et physiques de la part des forces ukrainiennes et de bénévoles. Ainsi, l'assistance cruciale actuellement offerte par des organisations non gouvernementales et des bénévoles aux personnes fuyant l'Ukraine a précédemment été entravée et érigée en infraction à la frontière avec le Bélarus. Vous vous souvenez bien sûr de cette histoire récente. Voilà ce que sont nos demandes aux autorités polonaises. Traiter de façon humaine et digne de toutes les personnes fuyant le conflit, quelle que soit leur nationalité. Prendre en main la responsabilité de l'accueil des personnes fuyant l'Ukraine. Introduire un système standardisé d'enregistrement institutionnel sur la provenance, la famille et la destination des personnes qui fuient et sur l'identité des personnes leur proposant de les transporter, de les loger. Mettre à disposition les renseignements à toutes les personnes fuyant l'Ukraine en ce qui concerne leur statut juridique en Pologne ou les possibilités s'offrant à elles pour se rendre légalement dans d'autres pays de l'Union européenne. Faire preuve d'intolérance face au racisme et au discours de haine. Voilà nos demandes aux autorités polonaises. On va maintenant écouter une chanson. L'avenir est un long passé. Thank you.
pluie noire, entouré de blanc, le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comme à cette époque le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. Entouré de blanc, le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas en mode action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours. Le câble qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords, comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça. Se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas. Le mal est maintenant général de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin, le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé. Noir, entouré de blanc, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants. C'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, dura était mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil. À toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes. La réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier. Tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question. Est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal. Comme à chaque fois avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler, j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez.
Fréquence. Pardon, c'était donc Mano. On va reprendre.
Oui, belle chanson, et voilà, qui montre que l'homme apprend pas toujours de son passé, hein, et les guerres continuent de se dérouler sur Terre, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine, mais il y a le Yémen depuis plusieurs années, en République démocratique du Congo aussi, ça fait plus de 10 ans qu'il y a beaucoup de morts. Voilà, donc on a du mal à prendre du passé, alors que les problèmes sont mondiaux et la crise climatique est toujours là et aggravée par tout ça. Bon, alors maintenant, je vais vous parler à nouveau d'Israël. Le mois dernier, je vous disais que Amnesty International avait sorti un rapport dénonçant les discriminations dont sont victimes les Palestiniens en Israël, avec des mots très forts, puisque Amnesty International partait de parler de situation d'apartheid. Et là, on a été rejoint dans cette accusation par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens, occupés depuis 1967, qui s'appelle Michael Link, et qui a présenté au Conseil des droits de l'homme un rapport dans lequel il conclut que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'apparente à un apartheid. Saleh Ighazi, notre directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré « Les conclusions du rapporteur spécial sont importantes et arrivent à point nommé pour conforter le consensus international croissant selon lequel les autorités israéliennes se rendent coupables du crime d'apartheid contre la population palestinienne. Ce rapport montre qu'Israël a mis en place un système d'oppression motivé par des considérations raciales contre les Palestiniens et les Palestiniennes, explicitement conçu pour maintenir la domination juive israélienne et qu'il l'impose en commettant des graves violations des droits humains. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains qualifient la situation d'apartheid depuis des années. Et ce rapport marque un tournant en reconnaissant la réalité vécue par des millions de personnes palestiniennes. Comme Amnesty International et de nombreux autres groupes de défense des droits humains, le rapporteur spécial a examiné la façon dont Israël traite les Palestiniens à travers le prisme du droit international. Il est parvenu à la conclusion incontestable qu'il s'agissait d'une situation d'apartheid. Au lieu de prendre des mesures pour remédier à ces graves violations, les organisations de défense des droits ces graves violations dont elles sont accusées par les organisations de défense des droits humains et maintenant par l'ONU, les autorités israéliennes continuent de se contenter d'attaquer celles ou ceux qui portent ce message en les accusant sans fondement de parti pris. Cette stratégie infructueuse ne saurait cacher le consensus qui grandit parmi les experts et les expertes, selon lesquels la terrible réalité de l'oppression à laquelle Israël soumet quotidiennement les Palestiniens est un exemple typique d'apartheid. Le rapport du rapporteur spécial souligne la nécessité pour la communauté internationale d'admettre les conclusions des organisations de défense des droits humains, dont la nôtre, et de commencer à appeler les choses par leur nom en employant le terme d'apartheid à propos d'Israël. La communauté internationale, en particulier les pays alliés à Israël, doit cesser de trouver des excuses à ce système cruel de domination et d'oppression raciale et prendre immédiatement des mesures pour contribuer à mettre fin à cet apartheid et protéger les droits des Palestiniens et Palestiniennes. Notre rapport de février 2022 montre comment Israël applique un système d'apartheid contre les personnes palestiniennes partout où il exerce un contrôle sur leurs droits, y compris sur son propre territoire. Nous appelons la Cour pénale internationale à considérer la qualification de crime d'apartheid dans le cadre de son enquête actuelle dans les territoires palestiniens occupés et tous les États exercer la compétence universelle afin d'engager des enquêtes et des poursuites judiciaires contre les personnes soupçonnées du crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité. Voilà, donc des mots très forts du rapporteur de l'ONU qui viennent conforter notre rapport du mois dernier. On va maintenant écouter une chanson de Sting qu'il avait composée il y a longtemps et qu'il ne pensait pas rechanter, qui s'appelle « Russian ».
Isn't no monopoly of commerce.
Voilà, très belle chanson de Sting, bon, qu'il avait écrite à l'occasion de la guerre froide et des risques de guerre qu'il y avait à l'époque entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Et il ne pensait pas devoir la rechanter, mais bon, la Russie actuelle, n'oublions pas qu'elle est dirigée par un ancien du KGB. Et il dit dans cette chanson que ben, les Russes, autant que les Américains, aiment leurs enfants et donc ils s'opposent à toute guerre. Voilà, il a rechanté dernièrement cette chanson pour les Ukrainiens. On va maintenant revenir en France et s'occuper des présidentielles 2022. Nous avons, en tant qu'Amnesty International, nous avons envoyé 10 demandes aux candidats et nous attendons leur réponse sur ces 10 demandes. Voilà, alors diriger la France exige de rester fidèle à ses valeurs, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, et de respecter tout autant les engagements internationaux qu'elle a pris. Voici donc nos 10 engagements que nous demandons aux candidats de signer. Engagement numéro 1. Défendre le droit à la liberté d'expression et le droit à l'information partout dans le monde et se montrer exemplaire pour les garantir en France. Engagement numéro 2. Protéger le droit de manifester en engageant une réforme structurelle du maintien de l'ordre pour aller vers des stratégies de dialogue et de désescalade, en commençant notamment par la suspension ou l'interdiction des armes susceptibles de mutiler les manifestants, comme les LBD, les grenades de désencerclement et les grenades assourdissantes. Et là, Dieu sait comme il y a du travail en France. L'engagement numéro 3, combattre la surveillance numérique illégale en soutenant l'appel à un moratoire immédiat sur les ventes, transferts et usages de ces technologies à travers le monde jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire solide et respectueux des droits humains soit mis en œuvre. Engagement numéro 4, lutter contre les violences et les discriminations à l'encontre des femmes et des personnes LGBTI en accroissant les moyens financiers alloués, en garantissant aux victimes l'égalité dans l'accès aux droits, en toute sécurité et en mettant en place des outils de suivi de ces engagements. Engagement numéro 5. Mettre fin aux lois et pratiques discriminatoires après en avoir fait un examen approfondi et transparent en associant les associations et personnes victimes de discrimination raciale ou religieuse. Engagement numéro 6. Garantir le droit d'asile en France et en Europe pour toutes les personnes en quête de protection, défendre fermement le principe de non-refoulement et favoriser des voies d'accès sûres et légales pour les personnes migrantes et réfugiées. Engagement numéro 7. Empêcher tout transfert d'armes de la France à destination de pays impliqués dans la commission de violations graves du droit international et mettre en place des dispositifs effectifs de contrôle parlementaire et de transparence sur les ventes d'armes. Engagement numéro 8, œuvrer au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils dans les conflits, et supprimer les verrous législatifs actuels, empêchant le plein usage par la France de la compétence universelle, et donc des poursuites de responsables présumés de crimes internationaux. Engagement numéro 9, tout mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre, en France, à l'horizon 2050 au plus tard, afin de contribuer à empêcher la hausse mondiale des températures de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Engagement numéro 10, renforcer la loi sur le devoir de vigilance en élargissant son champ d'application et œuvrer à l'adoption d'une directive européenne ambitieuse consacrant cette protection en Europe. Voilà les 10 engagements que nous avons soumis aux candidats et nous attendons leur réponse et nous vous ferons part de leur réponse. Voilà, on va maintenant écouter une nouvelle chanson qui a été reprise par les candidats de l'Eurovision. C'est la chanson célèbre « Imagine » de John Lennon.
imagine there's no heaven. It's easy if you try.
No hell below us. Above us only sky.
Imagine all the
to kill or die for, and no religion to.
Imagine all the people living life in peace.
You may say I'm a dreamer,
the world we live as one.
Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of men.
Imagine all the people sharing all the world.
You
may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I'm not the only one.
I hope someday you'll join us.
Voilà, très belle chanson de John Lennon que sa femme a donnée à Amnesty International. C'est-à-dire que chaque fois que cette chanson passe, les droits d'auteur vont à notre mouvement. On va maintenant parler un petit peu des activités du groupe Dinois. Donc on a notre réunion mensuelle. Alors on l'a fait chez un membre du groupe. Pour l'instant, on n'a pas repris nos réunions dans les salles des associations. Donc on l'a fait demain à 18h. Si jamais vous étiez intéressé pour venir voir, vous pouvez me téléphoner au 06 81 34 18 83. Voilà, donc Régis Goulange, je répète, 06 81 34 18 83. Vous pouvez aussi m'appeler si jamais vous vouliez nous aider pour notre foire aux livres. On va en effet la reprendre, hein, puisque on n'a pas pu la faire très souvent depuis 2 ans. Je crois qu'en 2 ans, on n'en a fait qu'une, ou en 3 ans même. Et donc, on va faire en principe le vendredi 13 mai et le samedi 14 mai notre foire aux livres à l'Atrium. Donc, ce sera ouvert le vendredi 13 toute la journée, de 9h à midi et de 14h à 19h. Et le samedi 14 mai, on ouvre de 9h à 17h. Ça sera ouvert entre midi et 2 le samedi. Voilà, donc vous pourrez voir toutes les nouveautés qu'on a accumulées depuis la dernière foire aux livres.
Excuse-moi, ça se passe où?
Alors ça se passe à l'Atrium. Hein,
la salle est enfin libérée, disponible, on va dire.
La salle est disponible, d'accord, puisque le Secours Populaire a fait une vente dernièrement. Hein. Voilà, donc venez acheter des livres, vous viendrez nombreux, j'espère, et puis signer nos pétitions, vous informer sur Amnesty. Et puis, bon, on a reçu beaucoup de dons de livres. Et ça permet justement de financer notre mouvement, puisque nous n'avons aucune subvention d'aucun État ni d'aucune municipalité pour garder justement notre indépendance qui nous est si chère. Voilà. Il me reste encore un peu de temps, donc je vais vous parler des mineurs non accompagnés. Sur Digne, ça continue. On continue à mettre à la rue des jeunes mineurs dont on conteste la minorité sur simplement le fait que leurs papiers ne sont pas conformes. Or, bien sûr, les papiers d'identité dans les pays, notamment les pays africains, l'état civil ne fonctionne pas comme en France. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont non conformes qu'ils ne sont pas valables et que ces jeunes sont en effet mineurs. On a recueilli, donc pour leur éviter la rue, on a hébergé chez nous, chez des amis, plusieurs de ces jeunes, 8 en tout, je crois, et on les a aidés à faire des recours. Et tous ont été reconnus mineurs. C'est bien la preuve qu'on envoyait dans la rue des enfants, contrairement à tous les textes internationaux et puis l'obligation de protéger les enfants, quelle que soit leur nationalité, sans aucune restriction, les enfants ne doivent pas être dans la rue. Voilà. Donc c'est toujours un grave problème. Et ça fait justement partie du dossier du journal Mémoire, qui est le journal d'une association qui s'appelle Primo Levi, qui est une association de soutien psychologique aux victimes de torture. Et ben, c'est un numéro très intéressant. Vous pouvez le commander sur Internet. Le numéro de ce mois-ci, de janvier 2022, est consacré justement aux mineurs non accompagnés, MNA. Alors, je vais vous lire juste l'éditorial. Au pays des exilés pousse une forêt touffue d'acronymes obscurs. Une forêt qui cache l'arbre, et l'arbre, c'est l'être humain. Une forêt qui cache la misère, misère des exilés, misère des politiques. Au milieu de cette forêt, il y a un MNA. En bon français, un MNA. Cela s'appelle un enfant seul ou un adolescent abandonné, ou encore un jeune en errance. Dans la langue de l'État, cet enfant perdu qu'on a laissé affronter la pauvreté, le froid, la faim, la violence des camps, les viols et les risques de noyade, cet enfant qui arrive chez nous totalement démuni et qui demande notre protection, ce n'est pas un enfant, c'est un MNA. Il n'y a rien de plus important, quand ce requérant en culotte courte arrive, que d'essayer de savoir si c'est un vrai ou un faux enfant. Pour l'authentifier, on lui fait passer un test osseux. Notre science, nos lumières, nos valeurs, notre civilisation, qu'en faisons-nous face à ces enfants en très grande difficulté? Nous pratiquons des tests osseux. Nous déployons notre médecine non pas pour les soigner ou les aider, mais pour essayer de les expulser du monde de l'enfance, de les expulser tout court. Tous ces spécialistes appointés ne sont-ils pas capables de distinguer à l'œil nu un enfant ou un adolescent en difficulté d'un adulte autonome? De plus, qui nous dit qu'un jeune majeur en grande difficulté aurait moins besoin de soutien que par exemple un enfant qui va bien? Le critère de l'âge est tout simplement hors sujet et notre droit s'arc-boucle, comme s'il jouait sa peau pour ne pas voir qu'il s'est déshumanisé, qu'il est sec et sombre, pour ne pas voir qu'il n'a plus que la peau sur les os. Avec cette pseudo-science des tests osseux, fragiles, incertaines, improbables, nous continuons la violence à l'égard de ces jeunes qui ont déjà subi tellement de ruptures et de traumatismes. Cette médecine qui sort de son territoire pour se mettre au service d'une logique administrative autoritaire, démagogique, absurde et violente, doit s'arrêter sans délai avant que la barbarie qu'elle porte en elle ne se répande comme une mauvaise maladie dans tout le corps social. Nous laissons des enfants seuls traverser des guerres, des camps, des frontières. Nous laissons des enfants seuls se noyer dans la Méditerranée, dans la Manche ou ailleurs. Ces enfants nous parlent. Ils nous disent que dans une société non aimante, non pensante, non agissante, un enfant seul s'appelle un MNA, un sac d'os qui ne sera pas accompagné comme il se doit s'il a le malheur d'être un tout petit peu trop âgé. Et un enfant seul, quand il n'est pas accompagné, quand il se trouve sans bouée au milieu de la mer, il se noie et le continent qu'il voulait rejoindre se noie avec lui. C'est un éditorial d'Antoine Ricard, président du Centre Primo Levi. Si parmi les auditeurs, il y a une famille, un couple, quelqu'un qui voudrait nous aider à héberger pendant le temps du recours ces mineurs dont on refuse la protection, notamment en contestant leurs documents d'identité. Donc ils sont considérés comme n'étant plus des mineurs, mais quand vous voulez les inscrire à l'école, quand vous voulez les soigner à l'hôpital, ce sont des mineurs. Et on demande des signatures de leurs représentants légaux. Hein. Et donc nous, on signe, mais en barrant légaux. Voilà, donc ça dure 2-3 mois, le temps du recours devant la juge des enfants. Donc si jamais il y a des gens qui seraient disposés à accueillir un de ces jeunes, c'est une très belle expérience parce que ces jeunes, on en a recueilli plusieurs chez nous, ils sont volontaires, ils ont envie de travailler, ils ont envie de s'en sortir. Et ils nous apprennent aussi beaucoup. N'hésitez pas à me contacter, donc Régis Coulange, 06 81 34 18 83. Voilà, on a créé une association qui est toute jeune, justement en regroupant tous ces gens qui veulent aider ces enfants. Ça s'appelle Association de soutien aux jeunes étrangers isolés. Donc vous pouvez me contacter et je vous enverrai les documents si vous voulez adhérer pour nous aider. Et puis bien sûr, si vous voulez accueillir un jeune, c'est le plus difficile, c'est ce qu'on cherche là, de trouver des hébergements solidaires pour ces jeunes. Voilà, et ben merci beaucoup. Et on va terminer avec une chanson qui demande la paix sur terre, une chanson de Jean Ferrat. Espérons qu'elle arrive vite. Merci.
Merci Régis, au revoir.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps,
le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatérale.